Bien avant l'avion et les voyages organisés, bien avant l'idée même de tourisme, l'Italie et Rome ont attiré de nombreux voyageurs, des commerçants mais aussi des artistes, des écrivains ou juste des curieux. Partons avec eux dans ce pèlerinage culturel que l'on appelait le Grand Tour. Professeur d'histoire moderne et chercheur à l'Université de Grenoble, Gilles Bertrand est spécialiste de ces voyages.
Le Grand Tour, c'est donc un voyage dont la définition même dit qu'il est circulaire, c'est-à-dire qu'il part d'un point et revient au même point. Ce Grand Tour, il a été créé par la pratique des voyageurs anglais au XVIe siècle. Il s'est développé au XVIIe et XVIIIe à l'ensemble des élites européennes. Au XVIIe et encore plus au XVIIIe siècle, lorsqu'on a eu une éducation dans le collège, au milieu des auteurs, notamment latins, il faut compléter cette éducation à partir de l'âge de 18 ans environ par un séjour dans des lieux qui sont balisés, qui sont à peu près toujours les mêmes, de ville en ville, Rome, Naples, Florence, Venise, Turin et Gênes, pour ce qui est de l'Italie. La raison est de passer un an, deux ans, trois ans pour parfaire, en quelque sorte, une éducation policée. Et l'Italie, au sein de ce Grand Tour, était une étape obligée, une étape qui en était en quelque sorte le clou. Le cœur de ce voyage, c'était Rome. C'était Rome comme étant une forme d'assimilation entre voyage en Italie égale voyage à Rome. Pas de Grand Tour sans Rome.
Difficile de savoir combien étaient ces voyageurs.
On sait qu'il y a des milliers de personnes sur les routes d'Europe ayant les moyens, qui peuvent passer un an, deux ans, trois ans de ville en ville. Mais à côté de ces voyageurs-là, il y a aussi les voyageurs très modestes qui vont d'auberge ou d'hôtellerie en hôtellerie, qui sont souvent pèlerins pour des raisons spirituelles, mais aussi pour des raisons matérielles, c'est-à-dire pour avoir le pain chaque jour. Et ces personnes-là également font à leur manière un grand tour. Elles peuvent aller de Saint-Jacques-de-Compostelle à Rome, elles peuvent circuler de sanctuaire en sanctuaire dans l'Europe du centre ou de l'ouest, mais pour elles aussi, l'Italie, ça représente quelque chose. Ce voyage à Rome est un voyage qui implique un parcours jusqu'à Rome. Donc, comme dans un pèlerinage, il y a des étapes. Et on peut dire que jusqu'au XVIIIe siècle, l'attente des reliques dans les églises forme un véritable jalonnement de l'itinéraire et auquel s'ajoute ce qu'on pourrait appeler un pèlerinage laïque, c'est-à-dire l'attente des tableaux, des monuments qu'on peut voir tout au long de la route. Il y a un rapport avec un passé. Le voyage est une forme de geste de mémoire. En allant à Rome, il y a l'idée de reparcourir tout un passé. On est bien dans l'esprit du pèlerinage et pas dans l'esprit de la pure promenade ou de l'exploration scientifique.
Le voyage est alors une véritable expédition, comme nous l'explique l'historienne de l'art Dominique Vautier, auteur d'un ouvrage intitulé « Tous les chemins mènent à Rome ».
Il faut compter depuis Bruxelles ou depuis Paris 1500 km. Ces 1500 km, on les fait à raison de 25 km par jour. Et donc, on compte environ 60 jours ou 2 mois. Le plus étonnant, c'est que quand on part à pied, on ne va pas beaucoup plus lentement que si on part en voiture. Parce qu'en réalité, en voiture, on doit tenir compte des arrêts dans les auberges, dans les changements de chevaux. Et donc, on met environ le même temps. Évidemment, les voyageurs sont tout le temps dans l'imprévu. Ils ne savent jamais très bien dans quel type d'auberge ils vont arriver. Ils s'attendent toujours à un certain type de nourriture. Ils doivent s'adapter au fait que le pain en Italie est sans sel, que le vin pour les Français est à l'époque très déroutant parce que ce n'est pas du tout le vin des caves françaises. Ils doivent s'habituer à des conditions parfois difficiles, mais je trouve que dans l'ensemble, ils font bon ménage avec tout ce qu'on leur présente.
Charles de Brosse, en 1739, écrit ainsi à l'un de ses amis.
Tout le monde dit « les auberges d'Italie sont détestables ». Cela n'est pas vrai, on est très bien dans les grandes villes. À la vérité, on est très mal dans les villages. Ce n'est pas merveille, il en est de même en France. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le pain, non pétri avec les bras, mais battu avec de gros bâtons, quoique fait avec de la farine blanche et très fine, est la plus détestable chose qu'un homme puisse goûter. J'en suis désolé. Pour le vin, je m'y fais tant bien que mal, en choisissant toujours celui qui est gros et fort âpre, par préférence au doux, qui ne peut être comparé qu'au pain, tant il est mauvais.
70 ans plus tard, Chateaubriand, lui aussi, vante les auberges italiennes.
On voyage très vite, les chemins sont excellents. Les auberges, supérieures à celles de France, valent presque celles de l'Angleterre. Je commence à croire que cette France si policée est un peu barbare. Je ne m'étonne plus du dédain que les Italiens ont conservé pour nous autres transalpins, Visigoths, Gaulois, Germains, Scandinaves, Slaves, Anglo-Normands. Notre ciel de plomb, nos villes enfumées, nos villages boueux doivent leur faire horreur. Les villes et les villages ont ici toute autre apparence. Les maisons sont grandes et d'une blancheur éclatante au dehors. Les rues sont larges et souvent traversées de ruisseaux d'eau vive où les femmes lavent leur linge et baignent leurs enfants.
C'est qu'une fois arrivé en Italie, le voyageur découvre un nouvel univers. Univers tant rêvé, tant attendu. Gilles Bertrand.
Ma rencontre avec l'Italie est toujours un petit peu complexe. Elle est mêlée de latinité. On reprend les mots de Énée, italiam, italiam, quand on arrive ou dans les Alpes, au Mont-Cenis, ou bien quand on arrive à Gênes, par la mer. Il y a l'attente d'une Italie classique qui est très très forte, on peut dire jusqu'au XXe siècle. Et cette attente intellectuelle est doublée de la reconnaissance de signes d'italianité, qui peuvent être dans la forme des lieux, la couleur des églises ou des maisons peintes, qui peut être dans la manière de faire des fenêtres, pour ceux qui viennent du nord de l'Italie, par le Brenner, qui peut être dans la langue, et souvent c'est à partir de la Lombardie qu'on se sent en Italie, et quand on vient de France, pas en Piémont, le Piémont n'est pas encore l'Italie, autrement dit, il y a vraiment une attente de l'Italie. Pour quelqu'un comme Lamartine, l'Italie, c'est à partir de la Toscane, et c'est surtout à Naples que Lamartine la découvre. C'est toujours l'éblouissement. Et on peut dire que sur ce qui est découvert, on a par exemple avec Montesquieu, à la fin des années 1720, l'idée même de ce que l'Italie apporte, ce qui n'était même pas attendu, c'est-à-dire une richesse telle, point de vue des monuments, des peintures, des sculptures, etc., qu'on devient pratiquement un critique d'art obligé face à une telle richesse. Sur le plan des contenus, l'Italie satisfait toujours.
Ainsi, Stendhal écrit en 1816
« Transport de joie, battement de cœur. Que je suis encore fou à 30 ans. Je verrai donc cette belle Italie. »